Un nouveau rendez-vous de Wagon Livre, comme chaque mercredi sur votre radio locale. C'est d'ailleurs ce soir le 112e numéro de votre émission littéraire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord. Dans quelques minutes, nous allons, grâce à notre invité, ressusciter le décor et l'atmosphère des salles de classe de l'école communale qui sentent les vieux bouquins un peu jaunis par le temps, la craie et l'encre. Il vient de faire paraître un nouveau roman qui raconte la vie d'un instituteur dans un petit village de la Nièvre de la fin du 19e siècle. Antoine Gavory, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir enfin à bord de Wagon Livre parce que vous n'êtes pas un débutant dans le monde de l'écriture. Alors comment dois-je vous présenter, Antoine ? Vous êtes journaliste, écrivain, y a-t-il d'autres casquettes ?
Non, c'est les deux principales casquettes, le journalisme qui est mon travail et puis l'auteur qui est un autre travail mais qui n'est pas forcément, qui ne me fait pas vivre forcément.
Alors vous êtes également chroniqueur littéraire à Quoi qui se passe,
entre autres, oui.
Qui est un, alors Quoi qui se passe, pour les iconés, je précise qu'il s'agit d'un magazine d'actualité nivernais.
Voilà, c'est ça.
Cela. Vous écrivez des critiques littéraires, des éditos, ça c'est un plaisir intense.
Ça c'est le plus grand plaisir.
Et puis vous produisez également, enfin vous êtes chroniqueur dans une émission sur une radio installée à Nevers, voilà, qui s'appelle Bac FM. Et vous participez avec d'autres personnes à une, disons, une actualité artistique, culturelle assez variée. Mais vous, vous êtes vraiment le chroniqueur littéraire.
Principalement.
Alors à ce jour, Antoine Gavory, vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, des romans, des nouvelles. Alors on mentionnera Un soir place Carnot, peut-être le plus ancien,
oui,
en 96.
C'est le premier, c'est la première publication.
Ensuite, il y a Elle n'aime que les histoires qui se finissent bien, en 1999. On mentionnera Barricade, aux éditions Pietra Liuzzo, en 2007. Plus proche de nous, en 2010, aux éditions Flagrant délit, La théorie de l'adolescence. Et puis, vous écrivez aussi du théâtre, vous êtes également parolier.
Aussi,
oui. Bon, c'est bien ce que je disais en début d'émission, de nombreuses casquettes.
Voilà. Pardon. Les vraies casquettes, les activités principales sont quand même le journalisme et l'écriture de romans, de théâtre. Après, parolier, je le suis occasionnellement, quand j'ai des rencontres qui se font avec des musiciens notamment, ou des interprètes.
Alors, vous êtes l'auteur de documents biographiques, notamment sur Marguerite Yourcenar, et en préparation une biographie sur Sacha Guitry.
Alors, Marguerite Yourcenar, c'était une petite biographie dans une collection dont le principe était d'expliquer un auteur en 15 pages. Là, sur Sacha Guitry, je suis sur un ouvrage qui va faire à peu près 300 pages, qui est vraiment une analyse non seulement de la vie de Sacha Guitry, une chronologie de sa vie, mais aussi une grande partie qui concerne la collaboration, les accusations de collaboration, et sur ce qu'a laissé Sacha Guitry, surtout dans la mémoire du théâtre.
Alors justement, ça va me permettre de rebondir. Je tiens à préciser qu'il y a un bel article de 3 pages qui vous est entièrement consacré dans le dernier numéro de Bourgogne Magazine, qui est daté de mars-avril dernier. Et notamment, l'article dit que vous aimez défendre les indéfendables et que, quelque part, les salopards vous attirent un peu.
Alors, ça m'attire un peu en littérature. Hein. Ça reste en littérature. Alors, c'est pas forcément que les salopards m'attirent, c'est que je cherche à comprendre comment on peut arriver à un raisonnement qui va pousser quelqu'un, à commettre le pire. Que ce soit, je pensais notamment à la collaboration, je pense notamment aux assassinats. Donc, j'essaye de comprendre intellectuellement comment on peut arriver, parce que je pense qu'il y a quand même des explications. Il y a énormément de gens pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont collaboré. Ils ont dû avoir un raisonnement logique quelque part, dans une logique qui n'est pas forcément la nôtre 60 ans après. Mais c'est ça que je cherche à étudier ou à écrire.
Et l'article qui est donc d'Emmanuel de Jésus, ou Emmanuel des Résous, je ne sais pas comment il faut, de Jésus, l'article qui vous est consacré dans Bourgogne Magazine, explique que vous vous êtes insurgé à l'époque contre le ministre de la Culture, c'était Mitterrand, parce que effectivement, il avait enlevé des commémorations nationales le nom de Louis Ferdinand Céline. Et cela, ça vous insupporte qu'on ait pu mettre à l'écart Céline.
Ça m'a insupporté dans le sens où Céline était quand même un excellent écrivain. Je veux dire, c'était quand même un grand auteur. C'est un auteur qui est classé parmi les 100 plus grands auteurs du XXe siècle. Donc je pense qu'on ne pouvait pas éviter de parler de Voyage au bout de la nuit ou de Mort à crédit, qui sont des livres de littérature. Après, bon, il y a eu des réactions violentes suite à ça, parce que j'avais écrit un édito qui s'appelait Écrivain résisté. Donc c'est vrai que l'alliance de résisté et de Céline, c'était pas forcément judicieux. Je le reconnais, c'était un petit peu de la provocation quand même. Mais je pense que Louis Ferdinand Céline, enfin je le lis moi actuellement encore pour préparer un ouvrage justement autour de lui. Et c'est un grand écrivain. Et on commémorait des écrivains. On commémorait pas des justes ou des résistants. On commémorait uniquement des écrivains.
Par conséquent, si je dis que Antoine Gavory est l'écrivain qui affûte et taille ses plumes, ce n'est pas exagéré ?
Ah non, je les lime même.
Alors, on vous accueille ce soir à bord de Wagon Livre sur Radione pour votre dernier roman qui a pour titre « Hussard noir à la campagne ». Avec le sous-titre « Un instituteur en Bourgogne, entre Empire et République ». Le livre est tout frais, hein, je crois que ça date de fin février, début mars.
Il a trois semaines.
Effectivement, il est disponible aux éditions de l'Escargot Savant. Alors tout d'abord, déjà, vous changez d'éditeur. C'est l'Escargot Savant qui vous accueille, alors qu'on vous a connu dans d'autres maisons.
Alors j'ai changé d'éditeur. Ben là, la dernière maison d'édition avec qui j'avais travaillé, où j'ai sorti La théorie de l'adolescence, c'est une maison d'édition où moi j'ai pris... des parts de responsabilité. Donc à partir du moment où je suis dans les personnes qui décident en fait de la ligne éditoriale, je considère que j'ai plus à éditer dans cette maison-là, parce que je peux pas rester objectif, vraiment objectif. Donc je suis allé ailleurs. Et puis l'Escargot Savant, c'est une maison d'édition que je suis depuis plusieurs années en tant que journaliste, en recevant les services presse. Donc je regarde un petit peu ce qu'ils publient. Et puis j'ai trouvé qu'ils avaient ils ont quand même une force sur la région qui est importante. Et puis là, la ligne éditoriale était de créer une collection de romans auteurs bourguignons. Et puis Sandra Amani, que vous connaissez bien.
Oui, à qui on fait un gros bisou d'ailleurs. Voilà. On va faire un gros bisou à Sandra, sinon elle va nous le reprocher.
Sur un salon, là. Et puis m'a convaincu en fait d'envoyer le manuscrit à l'Escargot Savant. J'étais pas très convaincu au départ, parce que c'est un livre que j'ai écrit il y a 14 ans.
Oui, alors justement, c'est ce que précise l'article d'Emmanuel de Jésus, c'est que finalement, c'est un ancien écrit que vous avez ressorti des tiroirs.
C'est vraiment un ancien écrit. C'est quelque chose que j'ai écrit quand j'ai commencé à faire des romans. Donc il y en a beaucoup qui sont restés dans les tiroirs de cette époque-là. Et puis à l'époque, j'avais proposé à un éditeur qui s'appelait Cheminement, qui était dans la Vienne, qui m'a dit « tu me le redonnes, tu le transformes en livre historique ». Enfin, vraiment en livre d'histoire plutôt qu'en roman historique. Et dans ce cas-là, je te le publie. Et à l'époque, je n'avais pas voulu. Parce que je m'étais dit, c'est un roman. Et donc, je l'ai mis dans un tiroir. Et l'année dernière, l'Escargot Savant a lancé donc son annonce de collection d'auteurs bourguignons. Sandra Amani a relayé l'annonce. Et puis, je lui ai dit, moi, j'ai un vieux truc qui traîne dans un tiroir. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait aller ? Je lui ai passé. Elle l'a trouvé pas mal. Et puis, je l'ai retravaillé beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps. Ils ont une excellente correctrice. Parce qu'il faut le dire quand même, les auteurs ont des correcteurs, et heureusement, quelquefois. Parce que ça permet d'avoir une vision extérieure. Et donc, j'ai retravaillé le livre pendant 2-3 mois. Alors, il est plus tout à fait comme à l'origine. C'est-à-dire qu'entre 99, où j'avais 24 ans, et maintenant où j'en ai presque 40... l'écriture a énormément changé et je pense qu'elle s'est enrichie. Enfin, j'espère au moins qu'elle s'est enrichie.
Alors, quel est votre lien justement avec cette école que vous n'avez pas connue ?
Alors, moi, j'ai
pas connu. C'est de la nostalgie, c'est aussi un roman teinté politiquement, avec quand même, l'esprit de la République chevillé au corps.
Alors, à l'origine, c'était. Moi, j'habitais Chaulnes quand j'étais adolescent. Et donc j'avais eu l'idée de... J'aimais beaucoup le village où j'habitais, d'ailleurs.
Oui, alors Antoine, expliquons quand même pour les Iconés que l'action du roman Hussard noir à la campagne se situe dans un petit village de la Nièvre qui s'appelle Chaugnes. C-H-A-U-L-G-N-E-S.
Tout près de la Charité-sur-Loire.
Et qui est votre un village avec pour lequel vous avez un lien affectif fort.
Ben, je suis arrivé là-bas à 15 ans avec l'envie d'organiser des choses. Donc j'ai créé un salon du livre là-bas avec d'autres personnes, avec une association qu'on a créée. Et donc pendant 12 ans, on a fait vivre un salon du livre important en plus. Et donc j'aimais beaucoup ce village. Et quand j'ai voulu écrire un livre Alors, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, j'ai voulu écrire un livre qui se passait là-bas. Donc, peut-être pour rendre hommage au village, parce qu'il n'y en avait pas. En plus, c'est le premier livre qui sort, en parlant de Chaulnes, qui sort sur Chaulnes. Je me suis intéressé à l'école, parce que c'était un thème, la laïcité, un thème qui m'intéresse depuis très longtemps, et encore plus depuis qu'on en reparle énormément, puisqu'on, depuis 4-5 ans, on en reparle énormément. Et là, le travail de réécriture cette année a été l'occasion justement d'aborder un thème plus politique. Que là, j'étais plus dans la volonté à l'époque de montrer voilà, la vie quotidienne d'un instituteur qui était écrivain public aussi. La réécriture m'a servi justement à apporter cette expérience que j'ai aussi et à pouvoir aborder des sujets beaucoup plus des sujets de société.
On revient dans quelques minutes sur votre roman, on va en parler bien évidemment plus en profondeur. Nous recevons ce soir donc Antoine Gavory pour Hussard noir à la campagne, avec le sous-titre qui éclaire Un instituteur en Bourgogne entre Empire et République, disponible aux éditions L'Escargot Savant. On se retrouve donc dans un petit instant, on propose une première escale en chanson et on vous invite à réécouter un titre de Gérard Lenormand, Les matins d'hiver, c'était Antoine en 1972. Voyez-vous, cela ne nous rajeunit pas vraiment. Bonne soirée sur Radio.
Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boule de neige en riant. Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait. Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler. Puis bercés par les pas d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle, nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en plein. De l'odeur fade et chaude de notre classe calfeutrée, des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées. Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient, et pendant les leçons dans mon coin je rêvais à des îles où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver, où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver. La 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 la.
Les matins d'hiver en 1972, interprété par Gérard Lenormand. On retrouve notre invité Antoine Gavory pour son roman, récemment paru aux éditions de l'Escargot Savant en février dernier. Alors Antoine Gavory, quel lien affectif avez-vous avec l'école ? Nous avons tous un rapport très particulier avec l'école. C'est le lieu où l'on s'est épanoui, c'est le lieu où l'on a acquis un savoir, une connaissance. Vous n'êtes pas fâché avec l'école, vous n'avez pas de compte à rendre, à régler avec l'école ou l'institution qu'est l'éducation nationale.
Du tout. Moi, j'ai un très très bon souvenir, notamment, c'est assez drôle, c'est que j'ai retrouvé ce professeur il y a 3-4 jours. J'ai retrouvé son nom par le biais d'une ancienne professeure. J'ai un professeur de français qui a été... Qui a eu un rôle quand j'étais en 6e, 5e, primordial en fait sur mon, sur ma vision de la littérature et de l'écriture surtout, donc qui est d'Auxerre, puisque moi j'étais scolarisé à Auxerre à l'époque, hein, j'étais à Saint-Georges. Donc j'ai retrouvé ce professeur il y a 2-3 jours. Donc j'ai de très bons souvenirs de l'école. Après, en ce qui concerne l'école actuelle et notamment les successions de réformes qui n'ont pas cessé d'échouer les unes derrière les autres depuis les années 60, là j'ai un regard beaucoup plus critique. C'est-à-dire qu'on avait une école il y a une centaine d'années qui était ce qu'elle était, mais on avait des gens qui arrivaient à 12 ans, savaient lire, écrire, avaient une culture générale qui est impressionnante, parce que je travaille sur des ateliers de mémoire avec mon épouse, et donc on interroge des gens qui ont 90 ans, qui se sont arrêtés au certificat d'études, et qui sont capables de parler de tout, qui sont capables de conjuguer l'imparfait du subjonctif, et ça pour moi c'est une référence, donc voilà ce que je suis... Je défends l'imparfait du subjonctif. Et donc je pense que les réformes successives depuis 60 ans ne sont pas bonnes, et je ne pense pas non plus que la dernière soit bonne. D'ailleurs, je me suis exprimé contre aussi dans la presse. Elle apporte rien au niveau de... Il y a tout à revoir, en fait, au niveau de l'école. Je pense qu'il y a vraiment tout à revoir.
Oui, alors certes, votre roman nous ramène à une époque qui est vraiment les tout débuts de l'école laïque républicaine, voilà. Avec une population qui est réfractaire, quand même extrêmement méfiante à l'égard du savoir, parce que les préoccupations sont celles du travail de la terre à la campagne. On n'a pas tellement envie que son enfant aille perdre son temps avec un maître à apprendre de la géographie, de la rhétorique. Et c'est ça qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on est peut-être dans une école trop ambitieuse qui semble ne pas vraiment toujours bien, satisfaire les attentes d'un citoyen avec une bonne pensée. Alors que, nous dit-on, les élèves bénéficieraient de toutes les technologies. On parle de cartables électroniques. Enfin, oui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'exagérations technologiques et que finalement...
Ça, c'est pareil. Ça, c'est un sujet qu'on va traiter, nous, dans notre magazine ce mois-ci, parce que les tablettes électroniques à l'école, c'est... Pour moi, c'est une hérésie. Donc, l'écriture, c'est quelque chose de primordial. Et à vouloir absolument communiquer tout par l'électronique, on va finir par ne plus savoir écrire, par ne plus savoir lire. Et ça va poser un réel problème. D'ailleurs, des spécialistes le disent, hein, c'est que l'apprentissage de l'écriture permet aussi de développer une partie du cerveau. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, qui facilite l'accès à la lecture. Donc ça, c'est un sujet très vaste. Après, en ce qui concerne les enseignants, je ne vais pas forcément me faire que des amis, mais je pense aussi qu'il y a un gros, gros problème au niveau des motivations de certains enseignants. Il y en a de très, très bons. J'en ai rencontré de très mauvais, qui ont une culture générale qui frôle le néant. Et je me dis que ces gens qui, il y a 100 ans, ces hussards noirs, se sont battus, ont réussi à imposer une école, à imposer une instruction, à imposer une vision de l'école et une vision de la société à une population réfractaire. Aujourd'hui, on a quand même une population qui est ouverte, c'est-à-dire que l'école n'est plus vue comme quelque chose d'inutile, et certains enseignants n'arrivent pas à faire leur travail.
Et les savoirs sont contestés, parfois.
Les savoirs sont contestés, et puis...
Ça dépend des sujets.
Et puis, il y a aussi le rôle de l'école qui est à définir, c'est-à-dire que, moi, mon idée, l'école est là pour instruire, elle n'est pas là pour éduquer, et ça, c'est un rôle qui est attribué aux parents. Et alors, bon, ça, après, on peut en parler longtemps, parce que moi, j'ai passé une enfance où, quand on se faisait punir par notre instit, on s'en reprenait une à la maison, quoi. Et pourtant, j'ai pas eu des parents violents, mais c'était comme ça, parce que l'école, c'était quelque chose qu'on respectait. Aujourd'hui, on arrive à une époque où, quand un instituteur va punir un enfant, c'est l'instituteur qui va se prendre une gifle par le père. Enfin, je pense qu'il y a vraiment le rôle des enseignants vraiment à revoir. Et puis, moi, je suis pour une école, de toute façon, beaucoup plus... avec le retour des uniformes, voilà, je suis un ringard, moi, conservateur, mais je pense que c'est nécessaire. Il y a une certaine discipline à remettre en ordre au niveau de l'école.
Vous allez sans doute satisfaire beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, parce que nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui pensent qu'il y aurait un déficit d'autorité à l'école. Enfin, on ne va pas trop ouvrir le débat, parce qu'on va parler surtout des hussards noirs. Alors, Antoine, s'il vous plaît, expliquez aux plus jeunes ce que signifie cette expression « hussards noirs de la République ».
Ben, les hussards noirs, c'est une expression d'ailleurs qui a été inventée en 1913, qui ne date pas du 19e siècle. Et c'est ces premiers instituteurs qui sortaient des écoles normales pour aller répandre l'enseignement laïque gratuit partout en France, en ayant, donc on les appelait hussards noirs parce qu'ils étaient habillés en noir.
Alors parlons justement de votre personnage, Clément, qui est célibataire. Donc l'action se situe dans ce petit village de Chaune. Il arrive par le train en gare de Chaune, où il est accueilli par le maire, qui est un étrange personnage, qui n'est pas présenté sous des traits particulièrement joyeux ou valorisants. Clément, donc, parisien, qui arrive dans un petit village de la Nièvre en été 1885, et qui lui aussi doit beaucoup à l'école, il doit beaucoup à son instituteur.
Ben, il doit énormément, parce qu'il est devenu instituteur justement grâce à un ancien instituteur qui lui a transmis la passion d'apprendre, et puis la passion d'enseigner, et surtout la passion de transmettre. Et je crois que c'est ça, les premiers instituteurs étaient vraiment dans cette volonté-là. C'était la volonté de transmettre à tout le monde une connaissance qui était assumée par les religieux auparavant, mais qui là, en l'occurrence, c'était les lois Valdez-Crousseau et Ferry de 1879 et 1885, donc il devait appliquer ça, puis il y avait aussi la République à promouvoir.
Alors sa formation, bon, il a préparé rhétorique, il a lu Marx et Hugo, il est républicain et laïque. Alors qu'est-ce que signifie être républicain dans les années 1880, Antoine, quand on est instituteur formé plutôt dans le milieu urbain et qu'on arrive dans la Nièvre? Qu'est-ce que ça veut dire, la République, pour des Nivernais qu'on imagine en sabots dans leur campagne?
Ça veut presque rien dire. La République à l'époque, enfin pour avoir étudié aussi sur d'autres sujets, la République en 1885, c'est avant tout de l'anti-Napoléon III. Les gens sont républicains parce qu'ils sont d'abord...
C'est une réaction contre l'Empire.
C'est vraiment une
contre
réaction
le
contre
Empire.
L'Empire et contre la défaite notamment de 1871. Je pense qu'après, dans les campagnes, les gens n'étaient pas plus impactés par l'Empire que par la République. Enfin, on le voit dans les textes qu'on peut lire, c'était la vie quotidienne s'embarrassait très peu, il n'y avait pas de préoccupations politiques comme il y en a aujourd'hui, les gens ne s'intéressaient pas forcément à l'information, à part quelques populations érudites. Ça s'arrêtait là. Après, pour les instituteurs, mais même le personnage, Clément se pose la question de nombreuses fois, savoir si c'est une bonne chose de vouloir absolument promouvoir une république dans des campagnes où déjà on a du mal à promouvoir l'instruction.
Ce qui est incroyable, c'est que Clément, votre instituteur, a vraiment beaucoup de pouvoir. Il sait s'exprimer, il sait écrire, il est écrivain public, il est journaliste, donc il a le pouvoir presque de la maîtrise de l'information, il a le pouvoir parce qu'il est celui qui détient le savoir et la connaissance. Vous parlez même de ce corps des instituteurs comme une sorte d'armée de la République.
Ah, c'était ça, c'était vraiment vu comme ça.
Dans le terme de hussard, bon, voilà. C'était un terme militaire.
Et c'est-à-dire qu'on donnait à l'époque aux instituteurs, on leur donnait des instructions qui étaient claires, qui étaient de leur tenue, jusqu'à leur tenue vestimentaire, mais aussi de ne pas trop se mêler avec la population pour pouvoir garder une certaine
distance,
place, un certain rang dans la société. Mais ça a duré jusque dans les années 60 et 50, c'est-à-dire dans les villages, le prêtre, le curé et l'instituteur étaient les deux personnalités locales, avec le maire forcément. Donc on avait la République, on avait le savoir et la religion.
Alors comment se fait-il, Antoine, que votre instituteur, Clément, n'aime pas Jules Renard? Pourquoi avez-vous fait de Clément un instituteur qui n'aime pas Jules Renard, qui est une figure dans la Nièvre que l'on aime particulièrement, l'homme de Chitry-les-Mines?
Alors parce que l'instituteur est comme moi. Alors moi, j'aime, c'est pas que j'aime pas Jules Renard en fait, c'est que je pense que Jules Renard est très très mal étudié. Jules Renard était quelqu'un de très réactionnaire, et en ça, ça me plaît énormément. C'était quelqu'un de très engagé politiquement, mais il avait un peu dans sa commune où il était maire. Il avait un peu ce comportement comme ça, condescendant vis-à-vis de ses administrés. Et puis je pense aussi que ce qu'on dit de Jules Renard, poil de carotte ou les histoires d'histoire naturelle, ne sont pas les meilleures œuvres de Jules Renard. On en a fait un écrivain nivernais, c'est-à-dire l'écrivain campagnard, régionaliste, qui fait la promotion de sa région, alors que c'était quand même un écrivain très engagé. Et ça, je l'ai découvert, moi, grâce à Jacques Tréfouel, qui a fait un reportage, qui a fait un film magnifique sur Jules Renard. Et je suis tombé des nues parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que c'était un brave type, comme on en a encore aujourd'hui, des gens qui écrivent sur les campagnes avec la volonté de faire connaître la vie quotidienne dans les campagnes. Et non, Renard, c'était quelqu'un de très, très engagé.
Qui sont donc ces austères hussards noirs de la République chargés d'apporter les lumières du savoir dans les campagnes françaises lors de la seconde moitié du XIXe siècle? Eh bien, c'est ce que nous allons continuer à découvrir avec notre invité. passionné d'histoire et de littérature, Antoine Gavory, est avec nous jusqu'à 22h pour nous raconter un petit peu la vie de son personnage, instituteur parisien fraîchement débarqué donc dans le petit village de Chaugnes, en Nièvre, en 1885. On va, Antoine, si vous le voulez bien, proposer un autre intermède musical, mais on accueille d'abord notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, pour le coup de cœur de la semaine. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Yannick. Aujourd'hui, un classique de la librairie, Les feuilles mortes de Thomas H. Cook aux éditions Folio Policier. Thomas H. Cook est un auteur très très prolifique, il a plus d'une quinzaine de romans traduits en France, mais il y en a encore beaucoup d'autres à traduire qui arrivent, hein. C'est un monsieur qui a 70 ans maintenant, ancien militaire de carrière, donc un monsieur assez ancien professeur d'université aussi, un parcours assez bizarre. C'est un auteur qui est encore peu connu en France, car il n'a pas de héros fétiches récurrents comme Harry Bosch et Connelly ou Mankell et Wallander, ce qui fait que c'est à chaque fois un roman très différent qui nous surprend tout le temps. C'est toujours très littéraire par contre, hein, Thomas H. Cook. Dans celui-ci, c'est un roman assez court, ça fait moins de 300 pages, et le personnage principal s'appelle Eric Moore. Il a la cinquantaine, on va dire qu'il a réussi. Une femme, deux enfants, une maison de banlieue telle qu'on les imagine dans les séries télé américaines, voilà. Il possède sa propre boutique, développe des photos familiales dans un centre commercial, hein, tu vois le genre de boutique. C'est une vraie réussite à l'américaine, une réussite middle class. Son fils aîné, pour gagner 3 sous, fait du babysitting. Et un jour, la gosse qu'il garde disparaît. C'est là que les ennuis commencent, évidemment. C'est le grain de sable qui vient gripper le bel engrenage de cette réussite à l'américaine. À partir du moment où la fillette disparaît, les langues vont bon train, et surtout, le doute s'installe au sein même de la famille américaine, et c'est petit à petit l'implosion de cette famille sous la pression externe. Donc c'est plus un roman psychologique qu'un roman policier, et c'est le doute qui vient miner les personnages. Je rappelle donc Thomas H. Cook, Les feuilles mortes, aux éditions Folio Policier.
Merci Evelyne, et puis je rappelle pour nos auditrices et auditeurs qu'ils retrouveront d'ici quelques temps sur la page Facebook de l'émission la couverture du livre, qui est donc le coup de cœur de la semaine dans Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Alors, un petit point avec toi Evelyne, quelles sont, dans les jours écoulés, les meilleures ventes?
Alors si on oublie Monsieur Jolibois et ses petites poules qui caracolent toujours en tête de nos ventes, au rayon jeunesse, la meilleure vente sera cette semaine le Jean-Paul Kaufmann avec un très beau récit de voyage, Remonter la Marne, avec un texte vraiment, vraiment passionnant. J'invite tout le monde à le lire, j'espère le chroniquer prochainement. Ensuite, c'est le Carole Martinez du Domaine des Murmures qui paraît en poche, qui avait été pris Goncourt des lycéens en 2011. Et enfin, et toujours, le Gentelet avec Fleur de Tonnerre.
Et un petit mot peut-être sur les petites poules de ce
Monsieur Jolibois. Monsieur Jolibois, qui, comme vous le savez tous, est du coin. C'est sa série qui est adaptée en dessin animé. Et donc, c'est toute une série de petites poules qui vivent dans un poulailler. Il leur arrive des aventures formidables. Et c'est très drôle et très très bien dessiné.
Voilà, donc des albums pleins de plumes, forcément.
Tout à fait.
Et pleins de plumes. Merci Evelyne, rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de cœur. Pour l'instant, on va laisser les auditrices et auditeurs en compagnie de Adieu Monsieur le Professeur, c'est Hugo Frey, et on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Antoine Gavory pour son roman Hussard Noir à la campagne. C'est un roman disponible aux éditions de l'Escargot Savant. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. Sur sa main,
Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. L'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter.
À l'instant, adieu monsieur le professeur par Hugo Frey. Ça va Antoine, ce sont de
ça
vous convient dans la thématique. Alors j'ai lu aussi que vous étiez un nostalgique, que vous avez un vieux tourne-disque à la maison que vous faisiez toujours
fonctionner. Ah ben j'ai pas qu'un vieux tourne-disque.
Vous avez aussi une collection de disques.
J'habite dans une maison qui est entièrement meublée dans les années 40. Voilà, donc avec la volonté affichée c'est même pas de la nostalgie, c'est-à-dire que c'est moi je cherche des décors qui me conviennent, et puis il s'est trouvé qu'avec mon épouse c'est quelque chose que l'on partage, puisque elle chante uniquement des chansons d'avant 1950, donc on s'est créé notre petit décor années 40 avec notre vieux tourne-disque, nos vieux disques, enfin on en a plusieurs des tourne-disques d'ailleurs. Voilà, donc on se crée notre petit décor et on se sent bien, c'est-à-dire qu'on est un peu déconnecté de la vie enfin, actuelle, ça fait du bien quelquefois.
Vous êtes, je rappelle, Antoine Gavoury, l'auteur d'un roman qui a pour titre « Hussard noir à la campagne » avec comme sous-titre « Un instituteur en Bourgogne entre Empire et République », roman qui raconte en fait les difficultés que rencontre un jeune instituteur en blouse noire venu remplir sa mission républicaine en terre nivernaise. Alors, Antoine, on va essayer d'aller un petit peu plus en avant dans ce que représente l'instituteur dans cette France de la fin du XIXe siècle. Vous citez la maxime de Jules Ferry qui disait « Il faut avant toute chose faire passer le drapeau ». Or, aujourd'hui, Antoine, tous les partis politiques, quand il s'agit d'élections présidentielles, s'emparent du drapeau, chacun le revendique. Alors, quand c'est l'extrême droite, les gens sont scandalisés, quand c'est les communistes, enfin, l'amour du drapeau, c'est une réalité dans cette France de la fin du XIXe siècle ?
Ah ben, c'est une vraie réalité, parce que c'est le drapeau représente l'unité de la République, et donc... C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, on a voulu abattre un dogme qui était la religion catholique, qui était l'Église, pour en imposer un autre, qui est la République, avec les mêmes excès, avec la même violence, quelquefois, parce que les instituteurs, il y a des instituteurs qui se sont fait assassiner, hein. Et puis des jésuites aussi qui se sont fait assassiner. Donc on a remplacé un dogme par un autre. Et le drapeau, c'est l'emblème de la France, c'est l'emblème de l'unité nationale et de la République.
Alors, dans votre roman, Antoine, vous écrivez « Le professeur avait généralement mauvaise presse, excepté auprès des républicains modérés qui avaient vu dans la création des programmes scolaires un moyen efficace de grandir l'enseignant et lui assurer le rang qu'il méritait. Comment se fait-il que la population, je pense essentiellement campagnarde, ait éprouvé de l'antipathie, de la méfiance, autant de réticence à l'égard de l'enseignant? C'est parce qu'il est un symbole de la République ou c'est parce que ces paysans avaient peur qu'on leur confisque leurs enfants, c'est-à-dire qu'on confisque des bras, qu'on confisque une main-d'œuvre utile?
Mais je pense qu'à la base, les populations ont eu du mal avec les instituteurs parce que les populations étaient très pieuses, que le curé représentait une autorité dans les villages, et à partir du moment où l'instituteur était opposé au curé, il y a tout l'aspect croyance religieuse qui est important aussi. Après, le problème de main-d'œuvre des enfants, ça c'est évident. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché, aux instituteurs d'enlever le pain de la bouche des familles les plus démunies. Puis il y en avait beaucoup, hein, au XIXe siècle, c'était 80% des populations dans les campagnes. Donc voilà, mais je pense que c'est avant tout lié aux croyances religieuses.
Et puis certains parents ont l'impression qu'on veut confisquer l'éducation de leurs enfants. Il y a certains parents qui voient d'un mauvais œil le fait qu'on puisse, donner une éducation qui n'émane pas d'eux-mêmes. Voilà.
C'est-à-dire que la grande différence entre...
Une sorte de jalousie presque, voilà, dans l'éducation, le formatage des enfants.
Mais la grande différence entre l'enseignement religieux et l'enseignement républicain, c'est que l'enseignement religieux, on apprenait des certitudes. Enfin, on enseignait des certitudes. Dans l'enseignement républicain, enfin, c'est du moins la volonté qui est affichée à l'époque, au tout début, c'est d'apprendre les enfants à réfléchir par eux-mêmes. Et ça, forcément, ça dérange. C'est un petit peu dérangeant dans des familles qui sont, encore une fois, très pieuses, donc pour qui la religion a une place primordiale durant toute leur vie, de leur enfance à leur mort. Et puis je pense qu'on avait plus peur de Dieu que du président de la République à l'époque.
Concernant les revenus de l'instituteur, on n'a pas l'impression que ces hussards noirs sont très très bien rémunérés.
Ah non, ils étaient absolument très très mal payés. Beaucoup, beaucoup plus que les familles moyennes. Mais par rapport à d'autres professions, ils étaient très très mal payés. C'est pour ça que c'était des gens qui avaient vraiment... ils avaient vraiment une volonté. Je pense qu'il n'y avait, une vocation et aucune récompense de l'autre côté. Ils étaient mal vus, ils n'étaient pas forcément non plus très appréciés de l'autorité politique dans la mesure où ça se passait pas toujours bien. Donc ils n'avaient aucun avantage en fait à faire ça, sinon à vouloir transmettre le savoir. Et je pense que c'est ça, c'est plus, ils l'ont fait, ils ont transmis les valeurs de République parce qu'on leur a un peu, on les a un peu obligés à le faire. Mais je pense qu'avant tout, ils avaient envie de transmettre une connaissance, le savoir, et de permettre à chacun de pouvoir apprendre.
Alors, néanmoins, ce savoir suscite beaucoup de méfiance. Je vous cite Antoine Gavory, « On accuse les instituteurs de posséder une instruction marquée du sceau du socialisme. »
Oui, mais c'était ça à l'époque. C'est-à-dire qu'on a, on les accusait d'avoir des partis pris sur tout et de vouloir transmettre une connaissance triée.
Alors, il y a un aspect particulièrement intéressant concernant les revenus de Clément, votre personnage instituteur. Il parle des siffleurs. J'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditrices et auditeurs ce que sont les siffleurs.
Ah si, les siffleurs, si, ça y est, ça me revient. Non, parce que quand vous m'avez posé la question sur le moment, Les siffleurs, en fait, c'était des enfants qu'on payait. C'était dans les villes, principalement. On les payait pour siffler devant les maisons quand d'autres enfants plus jeunes rentraient chez leurs parents, donc les siffleurs les accompagnaient et puis sifflaient pour prévenir les parents que les enfants étaient devant les portes d'entrée.
Dans votre roman, à un moment, Clément a un argument pour essayer de convaincre notamment des ouvriers de scolariser leurs enfants, parce qu'il s'agit quand même de faire en sorte que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et ce pauvre Clément, il est moyennement bien accueilli par un maire un peu étrange qui accumule un certain nombre de défauts ou de tares, en tout cas, et Clément se retrouve presque avec une classe vide.
Mais au départ, oui, parce que le maire est un... Ben c'est comme tout, hein, la République se cherchait un peu, donc chacun tâtonnait un peu pour aller dans la bonne direction. Et puis on sait que les hommes politiques n'aiment pas généralement aller dans la mauvaise, donc déjà à cette époque-là. Et donc il va falloir convaincre les familles. Alors après, il y a eu des lois qui ont essayé de mettre en place des amendes. Les familles avaient des amendes quand les enfants n'y allaient pas.
Mais enfin, donner des amendes à des familles qui n'ont pas d'argent, ça n'a pas grand sens. Donc ça n'a pas vraiment fonctionné, leur projet.
Un nouveau temps de pause, Antoine Gavory, si vous le voulez bien. On vous retrouve dans quelques minutes. On va laisser celles et ceux qui nous écoutent en compagnie de Image, avec le titre « Maîtresse ». Et dans ce titre, le chanteur retourne à l'école par amour d'une maîtresse créole. Et il veut bien travailler en cours particulier, mais il ne faut pas toucher à ses tresses. Donc on écoute « Maîtresse », c'est le groupe Image. Là encore, un titre qui ne nous rajeunit pas. Bonne soirée sur Radio. Si vous avez manqué le début de Wagon Livre, vous retrouverez très prochainement cette émission en podcast sur le site de Radion. On retrouve ce soir devant notre micro Antoine Gavory, auteur du roman intitulé « Hussard noir à la campagne » avec ce sous-titre « Un instituteur en Bourgogne entre Empire et République ». Dans votre roman, Antoine Gavory, vous parlez de la Bible républicaine, de ces hussards noirs, de ces instituteurs. C'est un manuel de lecture qui a pour titre « Le Tour de France par deux enfants ».
Voilà.
Est-ce que vous pouvez le présenter un peu à nos auditrices et auditeurs?
Eh bien, c'est un manuel scolaire qui a été publié en 1886, si je me souviens bien, par une femme. C'est une femme qui l'a écrite, qui a pris un pseudonyme d'homme, donc pour plein de raisons qu'on peut comprendre. Et c'est un livre qui a été utilisé jusqu'en 1957 dans les écoles. Donc moi, j'ai rencontré des gens récemment qui l'ont eu pour leur enseignement et qui racontaient l'histoire de deux enfants partis de l'Est de la France, ça doit être d'Alsace,
qui sont des orphelins, oui, c'est ça.
Deux orphelins et qui partent à la recherche de leur oncle en France et donc ils vont découvrir le pays. Et il y a toutes les valeurs républicaines qui passent à travers ce livre. Il y a des valeurs républicaines, il y a aussi des valeurs qui sont contestables aujourd'hui, qui sont des valeurs nationalistes. On faisait par exemple l'éloge de la race blanche, donc je pense aussi que c'est pour ça que le livre a été arrêté. Mais l'autre jour, mon libraire me disait qu'il était toujours édité, donc je pense qu'il a dû être modifié, mais je vais aller voir, faire un petit tour quand même. Voilà. Mais à travers ce livre, on faisait passer toutes les valeurs de la République.
Alors votre roman a le mérite de montrer vraiment une France, j'allais dire, coupée en deux, entre un camp républicain et un camp religieux, clérical. L'école a vraiment été perçue comme étant la concurrente de l'Église, de la foi catholique, de la morale catholique. Ah oui, c'était morale républicaine contre morale catholique.
Ah oui, à partir du moment où on enseigne, on apprend aux enfants à réfléchir par eux-mêmes, on a beaucoup plus de difficultés à leur enseigner des dogmes. Alors après, je ne juge pas ni l'Église ni la République, mais je veux dire, c'est à partir de là que l'Église, de toute façon, a perdu son influence sur la société. Voilà. Alors, c'est bien ou pas bien, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Ça m'arrive de pas avoir de jugement. Enfin, c'est rare, mais ça m'arrive. Donc, voilà.
Il y a un épisode dans le roman qui est l'épisode de la cloche. L'instituteur, Clément, demande au maire qu'il lui fournisse une cloche. C'est un élément que vous avez totalement inventé ou qui part d'un fait divers historique vérifiable? Parce que le curé du village de Chaugnes est mécontent d'apprendre qu'il n'est plus le seul à avoir une cloche à son église et que l'instituteur a, on imagine, une petite cloche pour sonner le rappel des élèves.
En fait, ça part à la fois des deux, c'est-à-dire que ça part d'un fait historique où on a interdit dans certaines communes aux prêtres de sonner, que ce soit l'Angélus, que ce soit les... On leur a interdit complètement de faire sonner les cloches de leur église. Donc voilà. Après, l'anecdote de l'instituteur qui prend la cloche, c'est fictif.
Et les tensions à l'époque entre catholiques et républicains sont si fortes que vous parlez même d'une situation en France proche de la guerre de religion.
Ah oui, on en était là, vraiment. On a des instituteurs se sont fait assassiner, des jésuites se sont fait assassiner. C'est deux religions en fait, c'est ça. C'est la religion catholique et la religion républicaine. Et la République n'a pas fait moins ou pire que la religion catholique à l'époque.
Alors, Antoine Gavory, j'ai été très surpris. J'ai trouvé le propos presque un peu excessif. Vous écrivez: on ne se rendait plus à la messe puisque l'on était républicain et l'on se retrouvait au café. Est-ce que c'est pas un raccourci
Non, c'est une provocation. C'est juste une provocation.
Très bien. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, parce que le temps passe finalement très vite. On parlera aussi un petit peu de l'éducation des filles, parce que l'école n'est pas encore mixte et se pose encore le problème de la place des filles dans la société française de la fin du 19e siècle. Hussard noir à la campagne, un instituteur en Bourgogne entre Empire et République, tel est le titre du roman qui nous occupe ce soir et dont l'auteur, Antoine Gavory, est devant notre micro. On se retrouve là, ça va être une pause musicale un peu fantaisiste, cher Antoine, on va écouter Richard Gottener, c'est Poil au tableau, c'était d'ailleurs la musique du film Le Maître d'école avec Coluche. Alors on se retrouve dans Gottener. Quelques minutes après Richard Gottener.
Poil au tableau, des routes les poils aux pieds, faites sonner la récré. Vous tripez le sel de cheval, vive la communale. Pour calculer en géo, double zéro pointé. Saucisse et cacao, mais j'en sais des salis. Des bases élémentaires, j'en ai tout plein le brouillon. Je sors des hauts prions. J'ai la mention guignol, un histoire de tourteau. Une cafetière sans café va s'acheter en 4 heures. À quelle heure va-t-elle croiser le camembert à vapeur?
Multiplions zozo, par graffiti, soin, soin. Si tout va comme il faut, ça fait caca boudin.
C'était à l'instant, donc, poil au tableau, Richard Gottener, une petite ambiance comme ça, fantaisiste. Et Gottener, c'est vrai que c'est quelqu'un, une sorte de jongleur de mots. Bon, maintenant, il se fait peut-être un peu vieux, mais enfin, c'était entre le yuki, le sampa et le mambo du décalco. Oui. Il se fait rare. Richard Gottener, revenez-nous si vous nous entendez. Ce soir, nous sommes avec Antoine Gavory pour son roman Hussard noir à la campagne, disponible en librairie aux éditions de l'Escargot Savant. Juste avant Richard Gottener, Antoine, il était question, nous n'avions qu'effleuré le sujet, il était question de l'éducation des filles. Parce que, effectivement, dans les années 1880, à la campagne, l'éducation des filles, c'est alors vraiment le dernier des soucis des parents. Hein.
C'était la couture, la cuisine, enfin les travaux ménagers, c'était ça. Et ça, c'était hérité du... C'est hérité de la monarchie, puisqu'à l'époque, c'était ça. On enseignait aux femmes à être... On enseignait aux jeunes filles, en fait, à être de bonnes épouses. Et ça, c'est resté jusque dans les années 1800. Alors, ça a commencé à bouger un petit peu dans les années 1870-1880. Mais ça s'est vraiment mis en place à la fin 1886, à peu près, avec une obligation de scolarisation des filles. Et on a eu des écoles mixtes, c'est-à-dire dans les campagnes, quand on n'avait pas suffisamment d'élèves, c'est le cas d'ailleurs dans le roman, on séparait la classe en deux avec un panneau qui faisait 1m50 minimum de hauteur et qui permettait de séparer garçons et filles.
Et même dans les milieux bourgeois, vous faites dire à une bourgeoise du village de Chaugnes, les femmes n'avaient pas à être instruites, même si on leur reconnaissait le droit d'instruire. Parce qu'il y a une institutrice, tout de même.
Les femmes ont eu le droit d'être institutrices bien avant d'avoir... Alors, je ne vais pas dire que toutes les filles n'accédaient pas à l'école, parce qu'il y avait des institutrices, donc elles ont appris aussi. Mais avant qu'on rende l'école accessible à toutes les filles de façon générale, comme aux garçons, il y avait beaucoup d'institutrices. Donc, c'est ce qui est assez curieux, mais... C'est assez curieux. Mais on a retrouvé un peu le phénomène aussi avec le vote... avec le droit de vote, c'est-à-dire qu'on a mis des décennies à donner le droit de vote aux femmes, voilà, alors qu'elles avaient le droit de s'exprimer, elles pouvaient même être candidates quelquefois, sur certaines élections. Donc il y a des incohérences comme ça dans l'histoire. Heureusement, tout ça s'est passé. Heureusement, de ce côté-là, sur ce plan-là.
Ce qui est émouvant, c'est qu'on voit ce monde campagnard qui est quand même sur le point de quitter les campagnes pour aller chercher le travail dans les usines, c'est-à-dire finalement aussi c'est le début de l'exode rural. C'est aussi une France qui est en train de changer de visage, une France modelée par l'industrialisation qui continue.
C'est ça, c'est la révolution industrielle.
Et cette petite Gabrielle, notamment, votre petite Gabrielle, qui adorerait effectivement être instruite, qui voudrait aussi quelque part s'émanciper, justement profiter du savoir en tant qu'ascenseur social, et finalement elle est condamnée très jeune à rester dans une usine de lime à Cône-sur-Loire.
Voilà, et en fait elle parviendra quand même à devenir institutrice au final, mais c'était ça de toute façon, c'était et encore là c'est le personnage du père qui est un juif allemand voilà, qui est réfugié, enfin qui a fait la guerre de 1870 et qui s'est ensuite installé dans la Nièvre. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu pas mal, même d'ailleurs dans certains coins de la Nièvre. Ce personnage est quelqu'un qui a reçu une éducation, qui a reçu une instruction et qui a quand même conscience de l'instruction. Mais en général, les filles n'allaient pas à l'école.
Entre Clément, votre instituteur, qui effectivement a beaucoup de respect pour son propre instituteur, qui lui a transmis un très grand nombre de savoirs, cette petite Gabrielle qui va sortir de sa condition de paysanne pour accéder à une condition de classe moyenne en devenant institutrice, ça m'a aussi énormément rappelé le parcours d'Albert Camus, qui, sans son instituteur, ne serait sans doute pas devenu lycéen et ne serait sans doute pas le prix Nobel de littérature qui est le nôtre.
Hein. Oui, mais je crois qu'on a tous... Moi, je vous parlais de ce professeur de français tout à l'heure, et puis j'en ai eu d'autres en histoire, notamment. Je crois qu'on a tous des enseignants qui ont marqué vraiment notre éducation, notre enseignement. J'étais très très mauvais à l'école en français, ça m'intéressait absolument pas, et j'ai eu un professeur de français passionnant en cinquième qui s'appelait Jean-Pierre Dallen. D'ailleurs, s'il se reconnaît, il pourra me contacter parce que du coup voilà, il habite Auxerre, hein, voilà, je crois qu'il est plus enseignant.
Et je crois qu'il est à la retraite, parce que j'ai moi-même été enseignant au collège à Saint-Georges-sur-Bauge il y a 10 ans, et je n'ai pas connu ce monsieur, mais j'entendais parler de lui d'anciens collègues.
C'était un professeur de français extraordinaire qui m'a donné la passion de la littérature en nous faisant inventer la suite. En l'occurrence, le souvenir que j'ai, c'était de Vipère au Poing, où il nous a demandé d'écrire la suite du livre. Donc il y avait tout un travail de création, enfin c'est voilà. Et ça, on en rencontre, je pense que tout le monde en rencontre au moins un professeur.
Donc en cinquième, vous lisiez Vipère au Poing, alors que moi, il y a quelques années, avec une classe de troisième, Vipère au Poing, c'était déjà jugé par mes élèves comme un roman difficile, vous voyez finalement.
Oui, et puis l'imparfait du subjonctif, on l'apprend plus. Alors qu'on l'apprenait en CE, on l'apprenait en CE2 ou CM1, donc c'était la 8e ou la 9e, dans les années 1920, donc ça s'arrange pas.
Vous faites ressusciter aussi dans votre roman la vie rustique et campagnarde. Alors, les paysans ramassent notamment des babolins. Que sont des babolins?
D'ailleurs, ce sont les gros escargots de Bourgogne, justement. Donc, c'est un terme en patois qu'on allait chercher. Donc, on y allait en sabots de bois, on les salait pour éviter que la terre colle. Ça, c'est dans le livre. Et on allait chercher les escargots.
Et puis, il y a une France un petit peu inquiétante, la France des croyances populaires, parce qu'il y a un début d'histoire, un début de sorcellerie. Il y a question d'ensorcellement à travers un jeteur de clous.
Voilà. Alors, le jeteur de clous, c'était un type qui passait... Il y en a eu un dans la région de Chaulnes, justement. Donc, c'est pour ça que j'avais repris l'anecdote. Un type qui passait, qui jetait des clous dans les cours et qui voulait symboliser la possession ou le mauvais œil jeté sur la maison. Et ça, les croyances populaires étaient très fortes hein, dans les campagnes. Ça, on peut le retrouver dans d'autres livres. Je pense notamment à Sandra Amani qui en a fait. Donc il y avait vraiment des croyances très ancrées.
Et dans un certain folklore, un personnage clé que l'on attendait, qui apportait des nouvelles et qui apportait la lecture, c'est le colporteur. Il y a un colporteur qui est en train de vivre apparemment aussi la fin de son, activité.
Les colporteurs, ça s'est terminé dans les années 1890 à peu près. Voilà. Après, c'est lié à l'industrialisation, hein, c'est-à-dire à l'exode. Les gens ont bougé un peu plus. Il y a eu le développement du chemin de fer qui était intervenu, il y a eu le développement de l'automobile ensuite, donc les gens se sont un peu plus déplacés, on n'est pas resté en autarcie comme ça sur ces villages, et puis on est parti voir un peu ce qui se passe ailleurs, puis les colporteurs, c'était terminé là.
On recommandera pour celles et ceux qui veulent se plonger dans une époque révolue, en tout cas, celle des débuts d'une troisième république à travers le parcours du personnage instituteur créé par Antoine Gavory. On recommandera Hussard noir à la campagne, avec ce sous-titre Un instituteur en Bourgogne entre Empire et République. C'est donc un roman de notre invité, disponible en librairie aux éditions de l'Escargot Savant. Et je voudrais aussi mentionner le dernier numéro de Bourgogne Magazine, dans lequel vous pourrez lire un article consacré à notre invité. Mais il y a aussi, Antoine, vous l'avez feuilleté, j'imagine, un beau dossier consacré aux femmes fatales, Marguerite de Bourgogne, Madame de Sévigné, Kiki de Montparnasse, Colette ou Anna Judic. C'est pas seulement le nom d'un lycée hôtelier à Semur en Auxois, c'est aussi une grande comédienne morte en 1911 et qui est enterrée, je l'ai appris, au cimetière de Montparnasse. Donc c'est le dernier numéro de Bourgogne Magazine. Et puis, votre roman, Antoine, Hussard noir à la campagne. Merci, Antoine, d'avoir été l'invité de Wagon Libre. Je voudrais aussi, avant de nous séparer, remercier monsieur et madame Barbe de l'hôtel Avalon-Vauban, qui nous accueillent ici à Avalon pour l'enregistrement de cette émission. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore, Antoine, et
bonne soirée.
À une, j'allais dire, je vous donne rendez-vous pour le prochain livre.
Oh, ça devrait pas tarder.
Merci, Antoine. Merci. Au revoir.